Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le 1er août est un symbole en RDC, une occasion pour les Congolais de penser aux parents vivants et disparus. Ce matin, enfants, parents et proches ont pris le chemin des cimetières pour rendre hommage aux membres de leur famille disparus. Au Maniema, les enfants font savoir que les parents méritent les meilleurs avant de donner conseil à ceux-là qui se rebellent contre leurs parents. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé depuis vendredi soir à Lubumbashi. À son programme, des inaugurations de certaines infrastructures dans la capitale du cuivre. Entre-temps, Katebe Katoto, qui est revenu au pays après une longue absence, est en train de consulter les forces vives de Lubumbashi. Les détails dans un instant. Dans les secteurs de Rwenzori, en territoire de Beni, au Nord Kivu, le retour progressif de la calmie n'a pas mis fin aux difficultés des femmes. Quelle est aujourd'hui leur réalité et quelles sont leurs principales préoccupations? Pour en parler, nous recevons Antoinette Zawadi, responsable du collectif des associations féminines de Beni. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. À l'occasion de la journée des parents et du souvenir des disparus, célébrée chaque 1er août, enfants, parents et proches ont pris ce samedi à Kinshasa les chemins des cimetières pour rendre hommage aux membres de leur famille disparue. Entre moments de recueillement, entretien des sépultures et forte affluence, les cimetières de Kintsuka, Mingadi, Kitambo et de la Gombe ont retrouvé leur animation habituelle. Les constats de la Chembalo.
Dès les premières heures de la matinée, les principaux arrêts des bus et plusieurs stations-service de Kinshasa connaissent une animation inhabituelle. Des familles entières prennent la direction des différents cimetières de la capitale. À la main, beaucoup ont déballé des pots de peinture, des brosses, de fleurs et d'autres matériels destinés à l'entretien des tombes de leurs proches. À l'entrée des cimetières de Kintsuka, Mingadi et Kitambo, les va-et-vient est permanent. Les véhicules transportant les familles se distinguent parfois par des rameaux fixés sur les pare-brises ou au rétroviseur. Ainsi, signe associé à cette journée de recueillement. À l'intérieur, plusieurs jeunes proposent leurs services. Nettoyage des tombes, désherbage, réhabilitation des sépultures ou encore remise en état des caveaux. Une activité qui leur permet de gagner un revenu supplémentaire en cette journée de forte affluence. Dans ces mêmes cimetières, un autre constat attire l'attention. Fosse d'allée suffisamment aménagée ou encore par manque de vigilance, certains visiteurs marchent sur des tombes pour atteindre celles de leurs proches. Un comportement qui suscite parfois des réactions parmi les familles présentes. Au cimetière de la Gombe, l'atmosphère est davantage marquée par le silence. Les prières et les recueillements, les visiteurs les font devant les sépultures de leurs proches, dans un climat de respect. Pour les familles qui ne retrouvent plus l'emplacement d'une tombe, les bureaux du cimetière restent un passage obligé. À Kinshasa, le 1er août n'est pas seulement une date inscrite au calendrier. C'est un moment de souvenir, de recueillement et de fidélité à la mémoire de ceux qui ne sont plus.
Au-delà de l'hommage rendu aux pères et aux mères, le 1er août, cette journée invite à réfléchir aux responsabilités familiales et à avoir une pensée pour celles et ceux dont les parents ne sont plus de ce monde. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Le 1er août est une journée de reconnaissance envers les parents. Pour beaucoup, elle rappelle avant tout les devoirs qu'impose la parentalité. C'est le point de vue de Noël Albert Kabeya, père de famille.
La journée d'aujourd'hui, c'est un rappel. Donc, j'ai la responsabilité d'abord envers mes enfants. Alors, je dois prendre soin d'eux. Je dois les amener à l'école. S'ils tombent malades, je suis censé les amener à l'hôpital. Et je dois lui montrer aussi le chemin du Christ.
Au-delà de cet appel à la responsabilité, cette célébration est aussi un moment de recueillement pour ceux qui ont perdu leurs parents. Albert Diokaba, orphelin de père, partage son ressenti.
Quand vous les perdez comme ça, vous allez toujours dire non à ces jour, je devrais aller voir mon père.
À la paroisse catholique de Brazza, Lumumba, où une messe a été célébrée à l'occasion de cette journée, l'abbé curé Michel Manganga a exhorté les familles à redoubler la vigilance face aux défis de l'ère numérique.
Alors, si les parents pouvaient arriver, mettre les enfants dans le bain de la vie chrétienne, je pense que les parents feraient beaucoup.
Une journée de célébration, mais surtout un rappel à la responsabilité qui incombe à chaque parent. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Thank you. Célébration de la journée dédiée aux parents, certains enfants s'expriment. Dans ce Vox Pop réalisé par Florence Kizalunga Kindou, les enfants reconnaissent la place qu'occupent les parents dans la vie d'un enfant. Ces derniers font savoir que les parents méritent les meilleurs avant de donner conseil à ceux-là qui se rebellent contre les parents. Suivons-les.
Pour moi, les parents, ce sont des êtres chers. On ne peut pas remplacer les parents. Donc pour moi, je l'aime tant. Ce sont des êtres chers pour moi.
Dédier une journée pour les parents, c'est quelque chose qui mérite. Et les parents, pour nous, ce sont des gens qui ont fait ce que nous puissions être. Et sans eux, il n'y a pas la vie. Sans eux, il n'y a pas l'humanité. Alors, ils méritent tout notre amour, tous nos respects et tout ce que nous avons. Je crois que nos parents méritent ça.
Bon, juste après, Dieu, ce sont mes parents parce qu'ils m'ont fait à ce que je vis. C'est grâce à eux que je suis dans le monde. Bon, je les donne seulement mes meilleurs.
De mon côté, comme un enfant, moi, en tant qu'un enfant, je conseille aux enfants comme moi de ne pas se rebeller contre ses parents. Car il est inadmissible d'avoir un enfant qui se rebelle contre ses parents. Même la Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Chers enfants, obéissez à nos parents, aimons nos parents, chérissons nos parents, car ce sont eux qui sont nos dieux sur cette terre.
Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi depuis hier vendredi à Lubumbashi. Au programme du chef de l'État, des inaugurations de certaines infrastructures dans la capitale du cuivre. C'est le cas notamment ce samedi du nouveau palais de justice moderne situé sur l'angle des avenues Kimbangu et des Chutes dans la commune Lubumbashi. Cette infrastructure est destinée à améliorer les conditions de travail des magistrats et en même temps favoriser le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. En séjour à Lubumbashi après plusieurs années d'absence, le notable Katangé Raphaël Katebe Katoto a entamé depuis jeudi dernier à l'hôtel Pullman Lubumbashi une série de consultations avec les forces vives. Katebe Katoto reçoit différentes couches de la population autour d'y vivre ensemble. Certaines personnes apprécient cette démarche, d'autres par contre voient dans ces consultations un agenda politique. Le point avec Paulé Munanga.
Parmi les groupes qui sont reçus, il y a les leaders religieux, les députés provinciaux honoraires, la jeunesse katangaise, la dynamique des femmes leaders katangaises, les associations socioculturelles, les collectifs des notables de Kipushi et plusieurs organisations de la société civile ainsi que d'autres leaders politiques et communautaires. Les échanges tournent autour des principaux défis de la province et des préoccupations de la population. Quelques personnalités s'expriment au sortir des consultations.
C'est une initiative très très bonne parce qu'il y a déjà eu des démarches dans le passé. Et cette fois-ci, on a vu que ça pourrait arriver à l'oreille sur la table du président Félix.
On nous a demandé à ce que nous puissions donner aussi les cahiers des charges. Nous allons rédiger notre cahier des charges pour déposer afin que le problème que nous avons soulevé puisse trouver une solution durable.
Nous avons quand même présenté des petits problèmes qui gangrènent notre convention au Katawa.
Signalons que certaines personnalités consultées affirment que Katebe Katoto a été envoyé par les chefs de l'État pour organiser les consultations. Par ailleurs, une certaine opinion pense que derrière ces consultations se cachent des motivations politiques. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, la lutte contre Ebola ne se joue plus seulement dans les centres de santé. Après avoir renforcé les capacités logistiques de la riposte, la MONUSCO mise désormais sur l'engagement des communautés pour freiner la propagation de l'épidémie. Un projet a été lancé ce jeudi à Miala, dans les territoires de Djougou. Le récit de Jean-Claude Lokidile.
Après les ambulances, les véhicules tout-terrain et les motos remis à l'Organisation mondiale de la santé pour soutenir la riposte contre Ebola, la MONUSCO, à travers sa section de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire, ouvre un nouveau front, celui de l'engagement communautaire. Mise en œuvre par les organisations locales Hope for Peace and Development et les réseaux des associations pour le développement durable, ce projet vise à renforcer la confiance des populations, combattre les rumeurs et la désinformation, tout en impliquant les bénéficiaires du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation comme relais communautaire. Les activités ont été lancées jeudi à Miela dans le périphérique de Bounia avec une session de renforcement des capacités réunissant leaders communautaires, religieux, coutumiers, femmes et jeunes. Le projet sera également déployé à Balingine, à Sota et à Chomia dans les territoires de Djougou et d'Irumu et près d'une centaine de bénéficiaires seront formés tandis que plus de 20 000 personnes seront sensibilisées à travers des dialogues communautaires, des émissions de radio et un mécanisme de suivi des rumeurs. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Plus de 20 femmes de Mujimaï et celles venues des provinces voisines ont été réparées des fistules obstétricales depuis près d'une semaine. Ces interventions chirurgicales s'effectuent au centre presbytérien à Mujimaï dans le pavillon Fistula Clinique. Cette action rentre dans le cadre de la campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales qui prend fin vers la fin du mois d'août. Esther Ndalafina pour le reportage.
Nathalie Kapinga, ménagère venue de Baloubachankadi dans la province de Lomami, raconte son calvaire après avoir souffert des fistules obstétricales depuis 4 ans.
Premier accouchement, il y avait eu des chirures et puis on a essayé un peu de suturer, ça n'a pas marché. Sous l'anesthésie générale, le docteur a tout déchiré et puis il y a saignement. Oui, l'opération, je pense, 2 jours. Je constate déjà les selles qui venaient déjà dans la cavité vaginale. Je suis contente ici, on m'a soignée.
Monique Ndaye est venue de Kanyamakassese après 17 ans de maladie avec un accouchement compliqué, témoigne être actuellement guéri des fistules.
Un médecin avait mal conduit mon accouchement. Les urines ont commencé à couler sans mes efforts personnels. Je suis venue ici, on m'a soignée, je me porte bien.
Au cours de la campagne de réparation, tous les actes sont gratuits. Esther Chidibi s'est réjouie des dispositifs mis en place.
Je suis contente de l'accueil. On a fait tout gratuitement. Nous n'avons pas payé la fiche. Moins encore la consultation. Tout est gratuit. On a été informés à travers les médias.
Les femmes réparées sont contentes. Cependant, Dr Jean-Pierre Lokoji, point focal des Fistula Clinique, affirme que le centre est confronté à plusieurs difficultés, dont le manque de partenaires pour la prise en charge des femmes souffrant de fistules obstétricales. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
Sud Kivu, 145 000 habitants du quartier Tchaï dans la ville de Bukavu éprouvent plusieurs difficultés pour accéder à l'eau potable fournie par la régie des eaux. Pourtant, des infrastructures communautaires destinées à faciliter le transport et la distribution de cette denrée existent déjà. Malgré cela, l'eau ne coule toujours pas des robinets, déplorent les forces vives locales. En cette période de saison sèche, cette pénurie favorise l'apparition des maladies liées au manque d'hygiène et au lavage insuffisant des mains. Ronéline Thibonera nous fait les points.
Sur place, c'est la désolation selon les forces vives locales. Les habitants qui avaient accueilli avec espoir la construction de plusieurs bornes fontaines dans le cadre du projet Imagine de Mercicor dénoncent aujourd'hui un projet sans impact sur leur vécu quotidien. Si les bornes fontaines ont bien été construites, le raccordement au réseau d'alimentation en eau n'a jamais été réalisé depuis 2021. Selon le président de la société civile de ces quartiers, cette pénurie contraint aussi bien les habitants que les adultes à parcourir des longues distances pour se procurer de l'eau potable. D'autres sont obligés de s'approvisionner dans des sources non aménagées communément appelées bisola, ce qui expose les habitants, en particulier les enfants, à de nombreux risques, notamment des agressions sexuelles, des accidents et des enlèvements et même des maladies diarrhéiques, explique Shukuru Luekia.
Il y avait des factures qui provenaient de la régie des eaux en demandant de payer de l'eau que la population n'ait jamais consommée au moment où les enfants sont victimes d'enlèvements, des viols, noyades, à la recherche de l'eau, à la société régie des eaux, de remettre la population dans leurs droits, car l'eau, c'est la vie.
Pour rappel, le quartier Tchaï figure parmi les entités les plus densément peuplées de Bukavu. Toutefois, les investissements dans les infrastructures communautaires des bases y demeurent insuffisants.
Au Nord Kivu voisin, pendant ces temps, les enseignants des écoles publiques non mécanisées appelées nouvelles unités vivent des vacances difficiles. Contrairement à leurs collègues pris en charge par l'État, ils ne perçoivent aucun salaire et doivent multiplier les moyens de subsistance pour faire face à leurs besoins quotidiens. À un mois de la rentrée scolaire, une centaine d'entre eux en territoire de Rutshuru réclament la régularisation de leur statut et leur intégration sur la liste des pays de l'État. Le point avec Rosalie Zawadi.
Enseignants, pharmaciens, vendeurs de chaussures, ce n'est pas une liste de 3 personnes différentes, mais le quotidien d'un seul homme. Quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, ses pères et ses enfants répond pourtant avec fierté « Je suis enseignant ». Mais pour nourrir sa famille, c'est dans la caisse de sa toute petite pharmacie qu'il doit piocher, car à l'école secondaire où il travaille à temps plein dans la cité de Kiwanja, il est classé nouvelle unité. En clair, l'État ne lui verse aucun salaire.
C'est cette officine qui m'aide. Je vois aussi des souliers, mais s'il n'y avait pas cela vraiment, je ne trouverais rien au sujet de vivre. La nourriture, en tout cas, serait tellement difficile pour moi, pour ce jour. Et c'est pas à dire que avec cette officine, soit cette vente de souliers, peuvent parvenir à subvenir à tous nos besoins. Par exemple, les fournitures scolaires. Il y a aussi d'autres qui sont locataires. Pour nous qui sommes aînés, il y a un grand problème. Que le gouvernement passe vraiment pour nous.
Comme lui, ils sont nombreux à enseigner chaque jour dans l'espoir un jour de voir tomber un salaire de l'État. En attendant, ils s'adaptent. Une situation qu'ils vivent comme une injustice. Pour eux, on ne devrait pas réduire à la misère ceux qui ont la lourde tâche de former les futurs cadres de la nation. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Avant d'aller plus loin, des dizaines de ménages vivent dans l'inquiétude en ces moments à Matadi. Et pour cause, plusieurs habitations sont ciblées par la démolition suite aux travaux de réhabilitation des voiries dans la ville. Dans cette ville du Congo central où les constructions anarchiques sont nombreuses, plusieurs habitations se trouvent sur les tracés des routes à moderniser. Si certaines maisons seront touchées en partie, d'autres pourraient être totalement démolies. Entre-temps, les propriétaires concernés affirment avoir entrepris des démarches auprès des autorités urbaines, mais aucune solution n'a encore été trouvée. Les détails avec vous, Élise Kavira.
Alors que les travaux avancent, l'inquiétude grandit chez les riverains. Entre peur et incertitude, ces familles disent attendre une réponse claire de la part des autorités. Cette mère de famille explique son désarroi.
Nous ne savons plus quoi faire. C'est vrai que nous avions reçu les notifications bien avant, mais une fois qu'on a construit sa maison, on ne pense plus à partir vivre ailleurs. Déplacer toute une famille, ce n'est pas facile. En plus, le maire ne nous dit pas clairement si nous serons indemnisés ou si tout est perdu pour nous. Cette situation est vraiment stressante et nous ne savons pas de quoi demain sera fait.
Contacté à ce sujet, le maire de Matadi tire la sonnette d'alarme. Il appelle à une prise de conscience collective, rappelant que la loi n'a pas d'émotion et qu'elle s'applique à tous sans distinction.
Il ne faut jamais aller au-delà de la route quand on construit. Les cadastres vont voir, l'urbanisme va voir. Si une parcelle est sur la route, à ce moment-là, on ne va pas vous indemniser. Mais si c'est l'État qui veut faire une déviation en empruntant votre parcelle, à ce moment-là, on vous indemnise, on vous paye votre argent équivalent au prix de la maison. Ce sont des expropriations, c'est l'État qui vous paye.
Les riverains, pour leur part, en appellent à l'indulgence des autorités pour qu'une solution soit trouvée avant toute démolition. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, après une année de détention, Moussa Mara a été libéré ce samedi. L'ancien premier ministre avait été arrêté le 1er août 2025, puis condamné pour atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. En cause, un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel Moussa Mara apportait son soutien à des prisonniers d'opinion et déclarait vouloir se battre par tous les moyens pour que le soleil succède à la nuit.
L'invité.
Dans le secteur de Rwenzori, en territoire de Beni au Nord Kivu, le retour progressif de la calmie n'a pas mis fin aux difficultés des femmes. Si la situation sécuritaire s'est améliorée ces derniers mois, elle continue de faire face à de nombreux défis économiques et sociaux, tout en jouant un rôle essentiel dans la vie de leur communauté. Quelle est aujourd'hui leur réalité et quelles sont leurs principales préoccupations? Pour en parler, nous recevons Antoinette Zawadi, responsable du collectif des associations féminines de Beni. Elle s'entretient avec Martial Papimoukeba.
Madame Antoinette Zawadi, bonjour.
Bonjour.
Quelle est aujourd'hui la situation de la femme dans le secteur de Rwenzori?
La situation de la femme dans le secteur Rwenzori est telle que la femme aujourd'hui, elle est un peu épanouie par rapport aux jours passés suite à l'insécurité qui était grandissante à secteur de Rwenzori. Mais comme il y a aujourd'hui une petite accalmie, la femme c'est ça quand même un peu soulagée. Elle peut vaquer librement à ses occupations, elle peut juste aller au champ qui est juste à côté, mais la peur reste encore. Elle ne peut pas aller encore loin, comme la plupart des femmes dans le secteur sont des cultivatrices et s'occupent des champs pour nourrir leur ménage. Alors, pour le moment, elle se contente seulement d'aller juste à côté où elle peut trouver, elle peut semer quelques haricots, quelques patates douces, ne fût-ce que pour nourrir la famille.
Et quels sont les indicateurs qui vous poussent à dire qu'aujourd'hui, la femme du secteur des Rwenzori est un peu épanouie?
Si vous arrivez le jour du marché, par exemple, si vous arrivez au marché du secteur, si à Mutuanga, le marché qui jadis Il n'y avait pas de personnes, mais si vous y allez, vous allez quand même trouver les femmes en train d'étaler la nourriture et les autres, les petits commerces. Ça, c'est un grand indicateur qui montre que quand même la femme est en train d'être épanouie petit à petit suite à la sécurité qui a été grandissante.
Et cette situation est observée depuis combien de temps?
C'est depuis presque une année, puisque ça fait une année qu'il n'y a pas d'ingestion des ADF dans la contrée. Et la vie en train de reprendre petit à petit.
Quels sont les principaux défis auxquels les femmes et les jeunes filles sont confrontées dans les secteurs des Wenzori?
La femme n'arrive pas à subvenir vraiment à ses besoins parce que les revenus est épais, insuffisant, puisque là où elle devait aller cultiver pour avoir quelque chose, ce n'est pas facile. Mais aussi, cette situation pousse surtout les jeunes filles du secteur à chercher à avoir le sexe de survie parce que, comme je l'ai dit, elles n'ont plus les moyens, c'est vraiment, vraiment limité. Elles se disent que vraiment elles doivent se donner pour avoir certains besoins. Ça, c'est un grand défi au niveau du secteur et nous pensons qu'il faut que la paix revienne et que ces femmes, les filles qui se donnent à ce comportement puisqu'elles n'ont pas les moyens pour survivre, que ça puisse cesser.
Est-ce qu'il y a aussi des cas de violences faites aux femmes et des violences sexuelles qui sont souvent signalées ou que vous avez déjà documentées dans le passé?
Oui, des cas ne manquent jamais. Avec la guerre, les cas sont multiples par-ci, par-là. Les femmes sont en train de s'efforcer d'alerter par rapport à ça, mais ça reste quand même un défi encore majeur dans ce secteur.
Les jeunes filles ont l'accès facile à l'éducation dans les secteurs de Rwenzori?
Au niveau de l'école primaire, oui, puisque avec la gratuité, tout le monde va à l'école. Mais à l'école secondaire, certaines filles sont bloquées parce que j'ai dit tantôt que à cause de la sécurité, c'est les chats qui produisaient les frais scolaires. Mais pour le moment, en tout cas, on réduit juste le nombre des enfants qui doivent aller à l'école et c'est un grand défi vraiment au niveau de la communauté. Néanmoins, il y a des filles qui apprennent certains métiers. Certains métiers comme la coupe couture, le tissage des paniers, pour les aider, ne fût-ce qu'avoir quelque chose pour les aider dans leurs besoins primaires.
Quelles actions votre collectif mène-t-il pour améliorer leurs conditions de vie et quels sont aujourd'hui vos principaux besoins?
On les apprenait à tisser les paniers, à faire la coupe couture, à faire le tressage des cheveux, à faire du jus pour qu'essaient aussi de se prendre à charge par rapport à certains besoins. Et actuellement, c'est un peu difficile, comme vous le savez, la situation financière au niveau mondial n'a pas permis d'avoir beaucoup plus de financement, mais on le fait à notre niveau, mais qui n'est pas suffisant comme nous n'avons pas aussi beaucoup de moyens. Et le besoin est que les partenaires puissent jeter un regard aussi dans le secteur de Rwenzori et voir comment aider cette femme-là qui est en train de faire des sommets à son niveau afin qu'elle s'épanouisse davantage.
Madame Zawadi, merci.
Merci beaucoup.
C'était notre invitée Antoinette Zawadi, responsable du collectif des associations féminines de Béni, qui s'entretenait avec Martial Papimoukeba. Voilà qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné par Jean-Désiré Kanyama, supervisé par Lévin Mwinga et mis en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyangasa. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.